Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
La suite du petit déjeuner de l'actu ce matin avec Éric Delbecq et ce livre, Les Silencieux, sur la menace salafiste aux éditions Plon. Merci d'être avec nous.
Merci.
Vous êtes expert en intelligence économique stratégique ainsi qu'en sécurité intérieure. Et puis on va revenir bien entendu sur cette menace. Juste avec est-ce que aujourd'hui on parle d'insécurité, en tout cas de sentiment d'insécurité et aujourd'hui on voit que c'est plutôt qu'un sentiment, on voit que c'est une réalité. Est-ce que finalement les grandes démocraties font preuve de manque de courage vis-à-vis de cette insécurité ?
Je dirais qu'il y a un manque de courage, c'est clair, parce que les gouvernements successifs, c'est pas une question de couleur politique, ont toujours la crainte de la manière dont l'action va être perçue. Ça, c'est déterminant dans les politiques de sécurité. Et puis après, il y a une vraie difficulté, c'est la continuité des politiques de sécurité. C'est-à-dire que là, lorsqu'on change de couleur politique, on essaie de faire autrement, différemment, pour donner une texture particulière. Tel ministre veut donner son nom à une loi. Et on a une difficulté de continuité des politiques publiques de sécurité. En fait, le vrai sujet, il est là. Il n'est pas dans les chiffres, pas les chiffres, etc. Sentiment, un sentiment. Moi, je suis toujours assez perplexe, voire parfois un peu choqué, lorsqu'on oppose les chiffres au sentiment des professionnels et des Français. Les gens ne sont pas débiles. Donc si à certains moments ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas en sécurité, c'est que ça révèle quelque chose. Alors que, à contrario, les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses, et éventuellement ils peuvent aussi se taire. Les chiffres ne font pas que parler.
Ah oui, mais alors certains disent oui, mais c'est parce que c'est entretenu par les médias, par certains politiques sur le sentiment. Non, c'est vrai ou pas ça ?
Non, déjà parce que les chiffres, je le dis beaucoup en ce moment, ils ne reflètent pas une partie de la réalité.
Ouais.
Donc c'est quand même difficile de faire confiance au thermomètre dans ce que vous savez qu'il y a une partie du phénomène qui lui échappe. Ensuite, il est assez clair que même ceux qui essaient de prospérer sur ce sentiment, ce qui n'est pas forcément faux, utilisent bien une matière qui existe. Et en plus, le grand argument des gens qui pensent que l'insécurité est un sentiment, d'ailleurs ça avait coûté cher à M. Jospin, n'arrive pas à vraiment analyser de quoi il est question et pense que les gens sont absolument déterminés par ce qu'ils entendent chez les politiques et les médias. On est beaucoup plus déterminés, et encore plus que par ce qui nous arrive à soi, par ce qui arrive à ses proches. Quand vous avez un enfant, une femme, un mari, une père, une mère, des grands-parents qui se font agresser, c'est là où vous allez être sensible à ce genre de choses. Donc tout ça mériterait d'être un peu disséqué, plutôt qu'en permanence de dire que les Français ne comprennent pas ce qui leur arrive.
Alors, dans ce livre, ce n'est pas de l'insécurité dont vous parlez, en fait, globalement, même si vous êtes un expert en sécurité, c'est surtout de la timidité, de la retenue de la République face à la menace salafiste qui existe. Et puis d'ailleurs, au passage aussi, vous répondez sur l'islamophobie. Quand on dit islamophobie, vous y répondez. Juste avant d'y venir, et vous allez bien nous détailler tout ça, peut-être un mot sur le discours au Panthéon d'Emmanuel Macron, vendredi dernier, sur le séparatisme. Est-ce qu'il vise juste ou est-ce que, bon, ce sont quelques mots, mais vous avez l'impression que derrière, il n'y a pas une réelle volonté manifeste, quoi.
Sur la forme, le discours est parfait. Il n'y a rien à dire. Tout y est. C'est un discours de pure facture républicaine. On ne peut pas lui reprocher d'avoir molli sur les fondamentaux. Après, la réalité nous dira ce qui va se passer. Ce que moi, je note comme indice plutôt encourageant, mais encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne vais pas prendre ma boule de cristal, mais préalablement, l'année dernière, il y a une circulaire très importante qui a été prise au ministère de l'Intérieur pour effectivement accélérer la lutte contre les salafistes, de manière générale, et en particulier, sans le dire, les quiétistes, parce que finalement, c'est ça que vise Emmanuel Macron, c'est ça que vise le ministère de l'Intérieur. C'est ces gens dont on ne veut pas trop dire le nom, des salafistes quiétistes, qui sont les vrais séparatistes.
Alors, qui sont qui, définissez.
Les salafistes quiétistes, c'est les gens dont on vous dit qu'ils ne sont pas dangereux. Ils sont salafistes, mais ils ne sont pas dangereux. Parce qu'il y a en gros une pyramide. Vous avez les salafistes quiétistes à la base, les salafistes politiques au-dessus, et le salafiste djihadiste au sommet de la pyramide qui fait des attentats.
Et les quiétistes, c'est-à-dire que c'est ceux qui attendent, qui sont sommeil.
C'est ça la grande imposture. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'un quiétiste n'est pas très dangereux parce qu'il fait juste que se communautariser et vivre entre salafistes. Bon. Le problème, c'est que quand vous faites des enclaves au cœur de la République, je ne vois pas en quoi c'est pas une manifestation politique. Faire des enclaves dans la République, en soi, c'est une forme de sédition. Donc déjà, dire que tout ça n'est pas dangereux, je ne suis pas d'accord. Et puis quand vous approfondissez un peu le message, y compris des salafistes quiétistes, vous vous rendez compte quand même que beaucoup des choses qu'ils disent tombent sous le coup du code pénal. Ouais. Expliquer qu'à certaines conditions on peut frapper sa femme, je suis désolé, mais enfin, jusqu'à présent, c'est punissable par la justice.
Donc, oui, c'est expliquer... ça. Qu'est-ce qu'ils disent, oui, bien sûr.
Ce genre de choses. Ou alors, effectivement, qu'il faut se retrouver entre eux. Ils vous expliquent, ils nous ont expliqué là, ces derniers temps que le Covid était une maladie envoyée par Dieu et que c'était bien fait pour les mécréants. Bon, si vous voulez. Tout ça ne signale pas quand même une camaraderie avec ses concitoyens notables. Oui. Et effectivement, le carburant... Alors, il s'agit pas... Un salafiste quiétiste, effectivement, n'est pas obligé de passer au stade du djihadisme.
Et est-ce que, ce que vous dites, c'est qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux, quoi, en France. Hein.
Ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus communautaires. C'est très difficile de le dire, parce que quand on vous annonce qu'il y a... Alors, les chiffres varient, mais en gros, on vous dit entre 10, 20 000... radicalisés, parfois un peu plus, parfois un peu moins, peu importe. Mais globalement, quand on vous dit radicalisé, globalement, on a affaire à des salafistes. Voilà. Et quand on veut aller étendre, certains vous disent qu'il y a 50 000 salafistes en France. Mais après, vous avez ceux qui sont plus ou moins obéissants à ceux qui sont d'authentiques salafistes. Bon, ça reste minoritaire, bien évidemment, mais la question, c'est que des gens minoritaires peuvent être dangereux et ils peuvent être corrodants. Donc, le salafisme quiétiste, c'est le carburant de l'ensemble du problème qui finit par aboutir au djihadisme. C'est l'essence idéologique.
Est-ce qu'il faut, c'est cash hein, comme question, mais criminaliser justement le salafisme ?
Alors, on ne peut pas criminaliser un état intellectuel, une pensée.
En tout cas, des écrits ou alors
voilà,
des discours.
Voilà, parce que sinon, bon, ouais. On reste dans une démocratie et c'est heureux, donc on ne peut pas criminaliser la pensée. La question, c'est qu'on peut commencer, entre guillemets, à criminaliser lorsque votre pensée donne lieu à des actes répréhensible, donc là, on peut pour le coup incriminer. Mohamed Sifaoui avait soulevé ce débat et à mon sens, à très juste titre, effectivement, de la criminalisation de certains écrits. Il y a des auteurs salafistes, je suis désolé de le dire, comme ça je me ferai encore des amis, qui ne valent pas mieux que l'auteur de Mein Kampf. Donc au bout d'un moment, il faut quand même,
y compris en matière
d'antisémitisme, etc. Ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'on juge que certains écrits peuvent être criminalisés parce qu'ils sont des offenses à la République, parce qu'ils tombent sous le coup du compte pénal. Très certainement, oui. Et ça, c'est intéressant parce que là, vous avez un substrat, vous avez un écrit, vous posez un acte avec des conséquences sociales, politiques. Donc, il est normal que la justice puisse s'y intéresser. Ce n'est pas un déni de démocratie. Ouais. Donc, la question se pose, oui.
Ouais. Allez, on va revenir avec vous. Les Silencieux, c'est votre livre aux éditions Plon. Ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République, ce que vous venez de dire à l'instant. Ils sont quand même assez nombreux. Certains sont plus discrets, mais ensuite, ils se diffusent auprès des plus radicaux. On va voir ça dans un instant. Et on viendra aussi sur le terme islamophobie que vous détaillez bien dans votre livre et beaucoup d'autres chapitres. Et d'ailleurs, si vous voulez poser des questions à Éric Delbecq, qui est expert en sécurité intérieure, vous n'hésitez pas. Vous composez
0-226-300-300. Voilà.
Ouais, on attend vos appels.
Ça, c'est un bon duo. 928, j'allais dire. Non, 9h28.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est la suite du petit déjeuner de l'actu 9h32. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, Éric Delbecq est avec nous, Les Silencieux aux éditions Plon, sur la menace salafiste hein, qui menace, soyons clairs, la République. Patrick Roger avec nous. Et est-ce que finalement, il ne va pas falloir écouter ce que disent les forces de l'ordre, justement, de croire les remontées d'informations du terrain qu'on a tendance à mettre un peu écarté ces derniers temps?
Ah ben moi, j'adorerais, parce que je trouve que ça serait quand même une perspective plus saine de la réalité. Alors, on est beaucoup dans tout ça, dans la manipulation idéologique, depuis plusieurs années. L'épisode des... alors moi, je ne dis plus des gilets jaunes, parce que je suis tellement pas d'accord avec l'analyse consistant à ne pas séparer les choses. Il y a eu des gilets jaunes qui étaient audibles, et puis au bout d'un moment, il y a eu des gens violents, qui pour moi n'étaient plus des gilets jaunes, et puis il y a eu une prise en main par l'ultra-gauche. Mmh. Donc a fleuri la fameuse thèse des violences policières, qui est une manipulation comme on en connaît des bonnes de temps en temps. Il peut y avoir des manquements à la déontologie, il y en a, c'est vrai, quand on les observe, il faut les sanctionner. Les violences policières, c'est un système organisé par l'État. Il n'y a pas, en France, de système de violences policières organisé par l'État. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sévère avec les manquements à la déontologie, mais il faut d'abord se rendre compte des millions d'interventions des policiers et des gendarmes qui se passent bien. Mais ça disparaît complètement. Donc quand on fait un peu de terrain et qu'on va à leur rencontre, on sait à quel point les gens qui travaillent dans la sécurité, on sait à quel point les policiers et les gendarmes ne sont pas des gens surexcités. Il faut toujours se méfier parce que les sécuritaires, généralement, sont des gens qui ne font pas les métiers de sécurité. Donc, quand ils vous disent quelque chose, c'est très fondé. Et en plus, vous pouvez vous rendre compte, je pense que c'est important de temps en temps d'apporter des témoignages. Moi, j'ai l'occasion également, et je suis allé le regarder dans le Vaucluse chez les gendarmes, de voir comment... des gendarmes, mais c'est aussi vrai des policiers, mais là, en l'occurrence, c'est, je suis allé observer les gendarmes, de la considération, l'attention que des gens qui, par ailleurs, font face à la violence toute la journée sur d'autres segments, apportaient aux violences intrafamiliales.
Ouais.
Ce qu'ils y mettaient de leur âme.
Ouais.
Donc après, quand on vous explique que ces gens sont des espèces de fascistes en puissance et que ceux qui orchestrent tout ça sont des gens qu'on connaît bien, y compris une grande partie de l'ultra-gauche, ça vous prend quand même aux tripes. Donc bien évidemment, pour répondre à votre question, il faut les écouter de la même manière qu'on doit écouter nos compatriotes et arrêter de leur dire, quand ils ont mal quelque part, que c'est une impression.
Oui. Bon, restons et revenons peut-être en fait sur ce que vous évoquez dans votre livre, c'est-à-dire une idéologie islamiste qui est capable d'édifier un empire. Hein. C'est ce que vous écrivez en fait vous-même. Il y a d'ailleurs des réactions
Il y a René qui est
au 0826 300 300. Hein. C'est René qui est avec nous. Bonjour René.
Bonjour René.
Oui, bonjour Patrick. Bonjour Monsieur Delbecq. Bonjour aux auditeurs.
Bonjour.
Écoutez, en confirmation de ce que nous a expliqué Monsieur Delbecq, je confirme que la France est confrontée à une subversion protéiforme d'un caractère profond, large, épais, constitué de plusieurs strates. Ce phénomène s'est construit progressivement depuis le septennat du Giscard des Saints avec l'accueil de Khomeini, le leader et guide chiite. Compte tenu du temps imparti, je n'aborderai qu'un seul aspect. Je rappelle au préalable à vos invités et aux auditeurs de Sud Radio, que la pratique de l'islam n'a jamais posé de problème au 19e et 20e siècle en France métropolitaine et en Algérie française. La tolérance dans le respect des trois religions principales a été arrêtée pendant 132 ans, y compris pendant la bataille d'Alger. Ce que je veux dire par là, c'est que les protagonistes de l'islam politique sont en concurrence et notre territoire constitue pour eux des enjeux à conquérir. Quand je dis en concurrence, évidemment, je pense aux monarchies pétrolières, aux nations du Maghreb, à la Turquie, évidemment, la vedette des vedettes, et l'Iran. Mmh. Donc, le fonctionnement de nos démocraties, marqué par le court-termisme lié au système électoral, constitue une faille énorme devant l'appétit de conquête de ces forces financières et radicalisées qui ont la temporalité politique que nous n'avons pas. Alors, ce que je propose, si vous voulez, Patrick, pour être très bref, c'est enfin de faire considérer que nos chicayas franco-françaises doivent laisser la place à une lecture sur l'internationalisation de cette subversion. Et je propose à tout le mouvement politique de mener une action vers les grandes instances, d'une part le Conseil de sécurité de l'ONU, le Parlement européen, pour couper les financements du terrorisme et de toutes ces fractions. Je conclue en disant que nous avons des moyens de rétorsion, notamment le gel des avoirs mobiliers et immobiliers, et je pense notamment à toutes ces associations qui financent ce salafisme dans nos banlieues, et je pense par exemple à cette fameuse association Qatar Charity. Voilà ce que je voulais dire ce matin.
Alors René,
c'est
vrai René, toute la question, Éric Delbecq, et vous l'évoquez beaucoup évidemment dans votre livre, hein, c'est cette organisation qui est en place, qui est financée, René parle de certains états qui sont derrière pour faire tourner un petit peu la machine et qu'elle se développe à l'international, quoi. Ce n'est pas d'ailleurs qu'en France. Quoi.
Oui, c'est tout à fait juste.
C'est les frères musulmans et puis tout le reste. Quoi.
C'est tout à fait juste et ça permet de faire une précision qui est capitale. Mmh. C'est-à-dire que la question n'est pas... Enfin, c'est une question, mais c'est à mon sens pas la principale, celle du financement du terrorisme.
Ouais.
Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'un acte terroriste peut se faire avec 3,50 € ou un peu plus. Bon. La question, c'est celle du financement du salafisme, de l'islam politique, de ce qui va permettre à des territoires, à des associations, de construire ce débat absolument insupportable sur l'islamophobie. Donc, on est confronté plus à une guerre idéologique qu'à toute autre chose, et cette guerre idéologique, elle réclame de l'argent. Et c'est vrai également que l'islam n'a jamais été le problème. On parle bien de l'islam politique, c'est-à-dire d'une maladie totalitaire. L'islam, comme toute spiritualité, mérite exégèse, mérite d'être vécu intérieurement. On n'a pas de problème particulier avec l'islam. Et tous les gens qui disent le contraire sont de piètres historiens. Ouais. Donc c'est bien, c'est, on combat un mal politique. Non, mais
après c'est une religion. Voilà, et après c'est bien une racine quoi avec les frères musulmans que d'ailleurs vous n'hésitez pas à qualifier en fait ce système de système totalitaire.
Oui, mais le fondateur des frères musulmans était un admirateur d'Hitler et Mussolini. Je crois que quand on a dit ça, on a quand même compris l'essentiel du sujet. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'après c'est très déplaisant ce débat en permanence. L'islam est-il compatible avec la République ou pas ? La question n'est rigoureusement pas là. Soit vous êtes le partisan d'un islam éclairé et vous faites le chemin que nous-mêmes en Occident, on a fait avec la chrétienté, plus particulièrement avec le catholicisme. Il faisait pas bon vivre avec des inquisiteurs au Moyen-Âge. Et puis on a eu la chance que des auteurs franciscains, dominicains, jésuites évoluent, fassent de l'exégèse. Bon, c'est vraisemblablement la même chose qui se passera avec l'islam. Il y a d'abord une guerre au sein de l'islam entre des gens qui ont compris qu'il fallait interpréter et des gens qui instrumentalisent une religion, mais qui, eux, sont d'abord des espèces d'assoiffés de pouvoir. Et puis, pour une partie, des gens qui ne supportent pas la modernité. J'entends par là des gens qui ne supportent pas qu'un individu soit maître de sa vie. Et ce qui est très intéressant, et moi je le prends comme un symptôme capital, c'est que le rapport que les salafistes, de manière générale, l'intégrisme aux femmes, est assez intéressant. L'émancipation des femmes est un indicateur de la place qu'on laisse au choix individuel. Donc, des gens comme ça, vous voyez bien qu'à travers ce thème-là, ils révèlent qu'ils sont d'abord des anti-modernes.
Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux en France. Et ils tiennent d'ailleurs, tous ces salafistes, environ plus d'une centaine de mosquées, en fait, aujourd'hui, ou de lieux de prière. Quoi.
Oui, mais c'est pas...
Sur le territoire national.
Là encore, vous savez, quand vous voyez sur Internet le nombre de ressources qu'il y a salafistes, qui donnent donc une image totalement tronquée de la chose, vous voyez bien qu'effectivement, il y a une intense activité sociétale, sociale, intellectuelle, idéologique. C'est de ça dont il est question. Hein. C'est un combat culturel.
Vous revenez sur cette phrase d'ailleurs de Pascal Bruckner, l'essayiste, qui dit « La France est aussi détestée par les intégristes, non pas parce qu'elle opprime les musulmans, mais parce qu'elle les libère. »
Eh oui, tout à fait. Oui. Si on part de ce... Enfin, Pascal Bruckner dit toujours des choses intelligentes, et là, il... encore une fois, c'est vrai sur ce sujet-là.
C'est cette modernité dont vous parlez.
Oui, parce que quand vous partez du principe que l'islam politique ou idéologique est une aspiration, une passion, un fantasme totalitaire, bien évidemment que la démocratie, la République, ne peut faire qu'un travail d'émancipation. L'idée, alors parfois vous avez des gens qui sont laïcs de manière un peu fermée, mais de manière générale, quand on en revient au sens du mot laïcité et de la loi de 1905, c'est de permettre à chacun de pratiquer sa religion. Et il est bien dit que chacun doit pouvoir la pratiquer. Donc la laïcité n'est pas une ennemie des spiritualités, pas du tout. Donc toute cette bulle, cette manipulation autour qui conduit à subvertir les mots et à faire que quand vous installez ces débats, on vous explique que vous êtes islamophobe, je le répète, c'est insupportable.
Alors ça, l'islamophobie, vous y allez hein, beaucoup. Oui. Vous dites que c'est une arme destinée à neutraliser les ressources du débat public. Grosso modo, qu'on brandit l'islamophobie pour faire taire tout le monde et puis favoriser le recul de la République. Ah bah, c'est fort ça quand même,
oui. Oui, mais c'est vrai. Alors, de manière générale, c'est la grande technique des radicalités idéologiques.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut vous empêcher de parler, dire que ce que vous dites est insupportable, vous corneriser, voire éventuellement vous attaquer en justice pour vous empêcher de parler. C'était arrivé à Pascal Bruckner, ce qui est juste délirant. Ouais. Et à partir de ce moment-là, les gens ont peur de s'exprimer. C'est ça. Bon, je ne vous parle même pas des menaces. Hein. Dès que vous venez parler d'une radicalité idéologique chez vous ou ailleurs, vous prenez 50 messages de menaces de mort ou d'insultes, etc. sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même particulier le débat public aujourd'hui. Et l'islamophobie, c'est ça. Je ne doute pas qu'il y ait des gens qui puissent l'être, islamophobes. Mais critiquer une radicalité idéologique, critiquer l'islam idéologique ou l'islam politique ne fait pas du tout de vous un islamophobe, sinon on tue le débat public, simplement.
Ouais. Est-ce que, puisque vous avez été en charge de la sécurité après les attentats de Charlie, en fait, pour toutes les équipes, est-ce que vous avez l'impression que quand même, ça fait maintenant 5 ans. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a pris en compte cette véritable menace qui avait explosé en fait au grand jour en faisant ses victimes en 2015, ou que finalement, avec le temps, on se dit bon, bah, voilà, et on en arrive à ce titre, les silencieux, justement, c'est-à-dire qu'on laisse faire et puis on verra ce qui arrivera par la suite, quoi.
Alors, moi, j'ai le sentiment, mais tout ça mérite d'être confirmé, hein, c'est des pistes que j'ai en observant la réalité de manière très technique. Je vous parlais tout à l'heure de cette circulaire. J'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose de plutôt intéressant au niveau de l'État, parce que finalement, la contrainte est tellement forte et la situation s'est tellement aggravée que finalement, l'État n'a d'autre choix que de réagir. En plus, je crois qu'on simplifie abusivement le débat public sur l'actuelle majorité, en disant qu'ils sont multiculturalistes, etc., au mauvais sens de ce mot. Je crois que le débat est bien plus complexe et qu'en plus, la majorité présidentielle est plus diverse qu'on le croit. Mais après, je ne fais pas de pronostic, je dis simplement que moi, en tant que technicien, j'ai le sentiment qu'il se passe des choses plutôt positives, mais en revanche, sur le terrain, c'est pas positif du tout. C'est-à-dire la réalité à laquelle on se confronte, elle est quand même plutôt inquiétante.
Et au 0826-300-300, il y a Patricia qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Patricia.
Bonjour Patricia.
Oui, bonjour. Alors je vous écoutais avec intérêt. Ce qui est peut-être que mon intervention va être un peu décalée puisque vous avez déjà évoqué l'essentiel, je dirais. Toutefois, je voulais juste historiquement parler de quelque chose. Il faut quand même savoir que l'imam de Jérusalem, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était un grand ami de M. Hitler. Donc, vous parliez de Mein Kampf, etc. Et il est un peu normal que tous ses écrits, ils aient bien trouvé des intérêts communs puisqu'il a même été sacré à rien d'honneur. Il a même eu la médaille. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, cette pensée, de toute façon, elle a grandi, elle a été entretenue. Même aujourd'hui, quand on voit, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on s'étonne que quand on apprend, quand on a un enfant et qu'on va à la mosquée le samedi, qu'on apprend à lire dans un livre religieux, je veux dire, on vous apprend aussi autre chose derrière. Donc, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner non plus que ça a été entretenu et que ça continue. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ce sont des enfants qui sont malléables. En fait, on les formate, donc c'est bien. Donc, faut qu'on, il y a des mosquées qui devaient être fermées, salafistes, elles n'ont jamais été fermées. Et tout le monde le sait, ça continue.
Alors, donc, ça, c'est vrai. Patricia, oui, Éric Delbecq, qui connaît bien ce sujet, restez avec nous. Hein. Il y a beaucoup de mosquées salafistes tenues par des salafistes qui sont connues, répertoriées, mais que l'on ne ferme pas, c'est vrai ?
Oui, parce que c'est un travail de fourmi. C'est-à-dire que pour pouvoir faire en sorte de rassembler
tous les éléments,
puis les preuves permettant de le faire, c'est compliqué. Alors, c'est à la fois rageant, parce qu'effectivement, quand on y est confronté, on se dit que ce n'est pas possible. Et en même temps, il faut le comprendre, même si c'est désagréable, parce qu'on doit rassembler des preuves, on est dans un état de droit et on ne peut pas...
fermer les choses comme ça.
Voilà. Mais effectivement, en tout cas, ça nécessite un travail acharné, ça nécessite de judiciariser quand on peut le faire. Les CLIR, qui sont justement un organe créé par la fameuse circulaire dont je parlais, sont faites pour utiliser tous les moyens de l'État pour pouvoir permettre, et pas simplement ça, mais aussi des associations qui seraient douteuses de pouvoir leur faire rendre gorge. Donc, ça, c'est plutôt des avancées.
Et un embrigadement, en fait, des jeunes, parce que Patricia disait, la lecture. Mais bon, après, il y a la lecture de l'islam, qu'on peut apprendre comme d'autres religions et tout. Apprendre à lire comme ça aussi. Mais en revanche, quand c'est une dérive...
Il y a tout un parcours de radicalisation. C'est pour ça qu'il faut bien dire et répéter aux gens que la radicalisation express, c'est une vaste fumisterie. Les gens peuvent éventuellement sombrer rapidement, mais la plupart du temps, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exemple de ça, mais il y a des études assez précises, y compris au Canada de Benjamin Ducol, disant que les radicalisations express, c'est quand même relativement epsilonesque. Et en tout état de cause, ça se discute sur les djihadistes, mais sur les salafistes dits faussement quiétistes, c'est tout un parcours pendant des années. Donc on le voit bien se construire ce parcours. Finalement, la bonne méthode... On le répète assez avec cette idée des CLIR, mais de manière générale, c'est, vous savez, le syndrome Al Capone.
C'est-à-dire,
je ne peux pas te serrer sur ton crime, mais crois-moi, je vais te faire la misère pendant des années pour découvrir sur quoi on peut t'attraper. Parce que finalement, de la même manière que l'islam politique, que les salafistes font une espèce de guerre d'usure à la démocratie, à la République, il faut leur faire une guerre d'usure.
Oui, c'est ça.
Il faut les user.
En s'infiltrant dans des associations, dans des...
En les contrôlant dès que c'est possible, criminalisant ce qui peut l'être, en judiciarisant, en leur faisant une vie d'enfer tous les jours. tous les jours. C'est comme ça qu'on vient à bout de... Et aussi, c'est très important, en réaffirmant une parole publique, intellectuelle, culturelle, politique, qui n'ait pas peur. Ouais. Alors, je ne vais pas faire du Jean-Paul II, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur d'avoir un discours construit. Et c'est vrai que dans le milieu intellectuel, j'ai vu à quel point cette peur, elle avait une place déterminante.
Dans les médias, vous le dites également.
Oui, dans les médias. Dans les médias, et c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à un certain nombre de gens qui aujourd'hui, alors c'est vrai de mes amis de Charlie Hebdo, et c'est vrai d'une personnalité aussi emblématique et charismatique que Rice, mais c'est vrai de Mohamed Sifaoui, c'est vrai de Caroline Fourest, c'est vrai de Philippe Val, c'est vrai d'un certain nombre de Zineb, c'est vrai de Richard Malka, etc. Chacun a ses défauts et ses qualités, on ne partage pas toujours toutes nos positions, mais c'est des hommes et des femmes de courage. Et c'est de ça dont on a besoin. Bien évidemment que, d'une certaine manière, on vit une forme de résistance. Alors, il ne s'agit pas de se voir propulsé dans les années 40, mais quelque part, ça y ressemble quand même un peu. Et c'est pour ça, j'en passe aussi un message, que c'est absolument lamentable de voir des gens aujourd'hui qui expliquent, oui, la liberté d'expression, oui, mais Charlie devrait bien de se modérer. Ouais. Moi, j'ai dit que les gens feraient bien d'apprendre le sens de l'humour, la pondération et le fait qu'une spiritualité se vit d'ailleurs à l'intérieur de soi.
Merci Éric Delbecq. Les silencieux, ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République. Il y a un plaidoyer pour la société de vigilance, d'ailleurs, vous évoquiez ça en fait.
Qui est l'inverse de la société de surveillance.
Oui, absolument. C'est aux éditions Plomb. Merci d'être venu chez nous
Merci
ce matin sur Sud
Radio.
Dans un instant, Didier Berkoff sera avec nous.
André.
André Berkoff,
on va l'appeler Didier.
C'est comme quoi j'ai mélangé deux personnes qu'on connaît bien.
Allez, dans un instant, il sera avec nous. Puis on fera peut-être un petit coup de projecteur aussi, parce qu'il y a un événement autour des voitures électriques. Là, on en parlait. Et je crois qu'il y en aura quelqu'un en ligne dans 10 minutes.
Et bien, à tout de suite, 9h50.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et la bonne nouvelle à 9h53, c'est Dédé Berkoff qui est avec nous en direct. Bonjour André.
Oui, bonjour Cécile.
Alors André, ce midi, interview exceptionnelle, exclusive, chez vous, le professeur Raoult. On ne l'a pas entendu depuis un petit bout de temps déjà, et notamment depuis cette affaire de plainte d'une société regroupant beaucoup d'infectiologues. Et il va répondre sur cette question et bien d'autres, mon cher André.
Oui, tout à fait. Il va répondre d'abord, effectivement, sur la dite extension. Est-ce qu'on est deuxième vague ou pas deuxième vague? Les uns parlent de progression exponentielle du cas ou pas.
Ouais.
Déjà, savoir, pour lui, qu'est-ce qui se passe, à son avis, petit bilan ou gros bilan. Et puis cette formidable polémique, qui se réengage, encore une fois, avec sa société. La société, effectivement, de pathologie infectieuse de langue française qu'il attaque devant l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, carrément avec un certain nombre de choses dont on va en parler. Olivier Véran qui a remis une couche également. Et puis les liens avec tous les laboratoires pharmaceutiques, etc., tout ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on aura de quoi faire.
Oui, absolument. Ouais. Bon, d'ailleurs, vous pouvez appeler et nous laisser des questions. André les relaiera. André, c'est à partir de 12h05, évidemment. Donc vous appelez au 0826-300-300 et si on a le temps, donc vous pouvez laisser vos questions et André les prendra, soit il vous prendra en direct, soit il les relaiera avec Clémence tout à l'heure, avec le professeur Raoult. Merci André, on vous laisse préparer cette interview avec soin, mon cher. Prenez quand même le masque de temps en temps.
À tout de suite, André.
Et juste, Cécile, avant de rendre l'antenne aussi, on voulait parler de, vous savez, on parle de tout ce qui se passe en fait autour de nous. Il y a un petit événement autour de la voiture électrique.
Absolument.
Ça a tendance quand même à beaucoup se développer.
Ah oui, ça cartonne. Hein.
On est avec Yann Asseran qui est avec nous. Bonjour
oui,
Yann.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour Cécile.
Pendant deux jours, il y a un événement autour de la voiture électrique. Alors c'est à Paris, mais partout en France, vous pourrez les retrouver aussi. Pour présenter quoi? Les nouvelles voitures hybrides électriques, c'est ça?
Tout à fait. En fait, on est parti d'un constat simple, c'est que les gens, pour pouvoir se poser la question de changer de motorisation et de passer du thermique à l'électrique ou à l'hybride, ils avaient besoin de passer derrière le volant. Et donc, plutôt que de faire un salon un petit peu calme, on fait le tour des voitures un peu comme au zoo, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tester, vivre cette expérience. Et on a eu l'excellente surprise hier de faire plus de 500 test drives pour le grand public. Et puis on attend aujourd'hui du grand public et des professionnels. C'est à Paris-La Villette.
Ah, c'est à la Villette, ouais, à la Villette. Donc, ouais. Si vous voulez aller tester une voiture hybride, hein, c'est
en
ça,
là-bas.
Non, mais ça, vous avez raison. Et là, toutes marques confondues, quoi.
Alors, ouais, exactement. L'idée, c'était pas de faire ça un peu comme une concession. C'est qu'on s'est dit que les gens avaient vraiment envie de tester. Ouais. Et pour ça, bah, il y a plein de modèles, il y a plein d'usages, il y a aussi des utilitaires. Il y a, par exemple, le Renault Master qu'on connaît bien. Bah, il y a le Renault Master ZE. Il y a comme ça Ford ou Nissan qui ramènent des gros utilitaires. Et puis, il y a des jolies petites voitures. Alors, il y a une belle Tesla parce que bah, c'est un des grands noms de l'électrique. Mais il y a Renault, il y a un chinois MG Motor, il y a Kia, il y a Nissan, il y a énormément de très belles marques.
Il y a
Honda aussi avec la Honda E. Et le but, c'est vraiment de venir, de tester. Chacun teste 3, 4, 5 véhicules. Se fait une idée. En fait, on a un circuit privé. Donc, c'est dans le 19e arrondissement de Paris. C'est le Paris Event Center.
Bon, bah,
et
si
on a 800 mètres de circuit pour tester tout ça. Quoi. C'est vraiment
assez super.
Et ben, on y sera,
mais il faut le faire maintenant dans toute la France aussi.
Voilà,
hein,
pour que ce soit là. C'est d'aller très bientôt.
On va vous accompagner. Merci, Yann.
Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain matin dans un instant. C'est Valérie Expert et Gilles Ganzmann qui reçoivent Michael Lumière. Vous savez qu'il va incarner le regretté Grégory Le Marchal dans le téléfilm biopic Pourquoi je vis.
Allez,
et
ciao,
nous, on se retrouve
demain
matin. Salut, bonne journée.